L'Église, une esquisse de son histoire pendant 20 siècles. Les premiers siècles. Première partie. Les temps apostoliques. Premier siècle. Ce qu'est l'Église. Le Nouveau Testament nous raconte l'histoire de celui qui vint du ciel sur la terre et fut ici-bas d'abord un petit enfant dans la faiblesse et la pauvreté, puis un homme rempli de grâce et de bonté, faisant du bien à tous, mais qui fut méconnu, méprisé, rejeté, accablé d'opprobre, et enfin cloué sur une croix où il mourut. C'était Jésus, le Fils bien-aimé de Dieu, venu pour nous sauver par ses souffrances et sa mort. Dieu le ressuscita d'entre les morts, puis il monta au ciel. Ce Jésus reviendra. Il prendra d'abord ses rachetés auprès de lui, puis il établira son royaume sur la terre. Cette merveilleuse histoire se continue jusqu'au moment où le Seigneur Jésus remet le royaume à son Père, après que les morts ont été jugés devant le grand trône blanc. Alors il y a un nouveau ciel et une nouvelle terre où Dieu habite au milieu des bienheureux, et c'est pour l'éternité. Je désire maintenant retracer une autre histoire, l'histoire d'une chose bien précieuse au Seigneur Jésus et qui lui sera précieuse à jamais. C'est celle de l'Église ou l'Assemblée, car ces deux mots ont la même signification. L'apôtre Paul dit « Christ a aimé l'Assemblée et s'est livré lui-même pour elle. Il la nourrit et la chérit. » Éphésiens 5, versets 25 et 29. Ces paroles nous montrent bien, n'est-ce pas, de quel prix est l'Église pour le cœur de Christ. Lui-même la compare à une perle de très grand prix, et il nous dit que, pour l'acquérir, il a vendu tout ce qu'il avait, c'est-à-dire qu'il a renoncé à tout, même à sa propre vie. Matthieu 13, versets 45-46.
Encore le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche de belles perles, et ayant trouvé une perle de très grand prix, il s'en alla et vendit tout ce qu'il avait et l'acheta.
Avant tout, nous avons à résoudre la question « qu'est-ce que l'Église ?» On nomme « Église » des édifices dans lesquels on se rassemble pour un service religieux. Mais nous ne trouvons pas ce nom ainsi appliqué dans la parole de Dieu. On appelle encore Église des ensembles de personnes qui ont les mêmes idées religieuses, les mêmes formes de culte et sont régies, dans ce but, par les mêmes règles. Ainsi, on dit l'Église anglicane, l'Église baptiste, etc. Mais l'Écriture ne parle de rien de semblable. Comme je le disais plus haut, le mot « Église » signifie « assemblée », et dans la bouche du Seigneur, comme dans les écrits des apôtres, cette expression désigne ou bien l'ensemble de tous les vrais croyants en tout lieu à un moment donné sur la terre, ou bien l'ensemble de tous les saints ressuscités ou transmués et glorifiés, depuis la Pentecôte jusqu'au retour de Christ. C'est alors l'assemblée complète. Ou bien encore, l'ensemble des chrétiens qui se réunissaient dans une localité. Par exemple, quand l'apôtre Paul écrit à l'Église ou l'Assemblée de Dieu qui est à Corinthe, il s'adresse à tous les chrétiens de Corinthe. Lorsqu'il recommande de saluer l'Église ou l'Assemblée qui se réunit chez Nymphas ou chez Philémon, il parle des chrétiens qui s'assemblaient chez l'un ou l'autre de ses frères pour le culte. Mais quand il dit « Christ a aimé l'Assemblée », c'est l'Assemblée complète. Et lorsqu'il exhorte les anciens à paître, l'Assemblée de Dieu, laquelle il a acquise par le sang de son propre Fils, il veut dire tous les vrais croyants, lavés de leurs péchés dans le précieux sang de Christ, mais encore sur la terre. Vous penserez peut-être qu'Abel, Noé, Abraham, Moïse, David, les prophètes, tous ces saints hommes faisaient partie de l'Église. Non, l'Église n'existait pas alors. C'étaient des justes qui croyaient Dieu et allaient leur chemin sur la terre en se confiant en lui et en ses promesses. Mais ils n'étaient pas de l'Église. Dieu a eu sur la terre un peuple qu'il a choisi du milieu des autres nations, qu'il aime toujours et qu'il rétablira dans le pays de la promesse, Israël. Mais Israël n'est pas l'Église. L'Église n'a jamais été nommée avant que le Seigneur en eût parlé, quand il dit à Pierre « Je bâtirai mon assemblée » Matthieu 16, verset 18. Elle est donc à lui, mais elle n'était pas commencée. Ce n'est qu'après sa mort sur la croix et son entrée dans la gloire que l'Église a pris naissance, et ce fut le jour de la Pentecôte. Quand, selon la promesse de Jésus, le Saint-Esprit fut descendu du ciel sur les disciples, c'est à l'apôtre Paul que Dieu a donné ensuite la révélation de tous les privilèges de l'Église. Auparavant, c'était un mystère caché dès les siècles en Dieu. Éphésiens 3, verset 9, Colossiens 1, verset 26. Les saints et les prophètes de l'Ancien Testament ne le connaissaient pas. L'Église est une assemblée céleste que Dieu voulait avoir pour son Fils bien-aimé. Elle est appelée l'Assemblée de Dieu, laquelle il a acquise par le sang de son propre Fils. Elle se compose de ceux qui, ayant cru en Jésus mort, ressuscité et glorifié, sont lavés dans son sang. Ceux-là sont nés de Dieu. Dieu leur donne son Saint-Esprit. Ils sont ainsi unis les uns aux autres et à Christ dans le ciel, ayant tous la même vie que ce précieux Sauveur. Voilà pourquoi l'Église est appelée le corps de Christ, lui-même en étant la tête. Chaque croyant est un membre de ce corps. Ce lien ne saurait être rompu. C'est celui d'une vie céleste et impérissable, d'une vie qui est celle de Christ même. La parole de Dieu nous dit que le corps de Christ, ainsi formé par le Saint-Esprit, est un. Il n'y a qu'un seul corps, comme il n'y a qu'un seul esprit qui forme et anime le corps, et comme il n'y a aussi qu'une seule espérance pour tous les croyants, celle d'être avec le Seigneur dans le ciel. Alors le corps de Christ aura atteint la perfection. L'Église est aussi appelée la maison de Dieu. Elle est l'habitation de Dieu par le Saint-Esprit qui y demeure et y manifeste sa présence. Elle est ainsi un temple saint qui s'élève et qui sera achevé et parfait dans la gloire. 1 Timothée 3, verset 15.
Afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'assemblée du Dieu vivant, la colonne et le soutien de la vérité.
Éphésiens 2, versets 20 à 22.
La maison de Dieu ayant été édifiée sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la maîtresse pierre du coin, en qui tout l'édifice, bien ajusté ensemble, croit pour être un temple saint dans le Seigneur, en qui vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu par l'Esprit.
1 Corinthiens 3, versets 16 et 17.
Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un corrompt le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et tel vous êtes.
Dieu n'a pas maintenant d'autre maison, d'autre temple sur la terre où il soit adoré, bien que le corps de chaque croyant, parce que le Saint-Esprit y habite, soit aussi appelé un temple. 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20.
Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez de Dieu, et vous n'êtes pas à vous-même, car vous avez été achetés à prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps.
Nous avons vu que le Seigneur Jésus est celui qui bâtit cette maison de Dieu, l'Assemblée. Mais toute maison est posée sur un fondement. Quel est celui de l'Église? Un roc inébranlable, Jésus lui-même. Il est le seul fondement qui puisse être posé. 1 Corinthiens 3, verset 11.
Car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui est posé, lequel est Jésus-Christ.
Quand Simon-Pierre, instruit par le Père, eut fait cette belle confession, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », le Seigneur lui dit que, sur ce roc, cette vérité que Dieu avait révélée à Pierre, il bâtirait son assemblée. Matthieu 16, versets 16 à 18.
Et Simon-Pierre répondant dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et Jésus répondant lui dit, « Tu es bienheureux, Simon Bar-Jonas, car la chair et le sang ne t'ont pas révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi aussi je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc je bâtirai mon assemblée, et les portes du Hadès ne prévaudront pas contre elle. »
Et que voulaient dire les paroles de Pierre? C'est qu'en Christ, le Fils du Dieu vivant était la puissance de la vie de Dieu contre laquelle la mort et Satan, qui a le pouvoir de la mort, ne peuvent absolument rien. Hébreux 2, verset 14.
Puis donc que les enfants tu pars au sang et à la chair, lui aussi semblablement y a participé, afin que, par la mort, il rendît impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable.
Et le Seigneur déclare que la puissance de la mort et de Satan ne pourrait rien contre l'Église établie sur ce roc. Elle est vivante et indestructible, comme celui sur qui elle est fondée. Quelle sécurité pour ceux qui en font partie. L'apôtre Pierre, à qui avaient été adressées les paroles que le Seigneur prononce relativement à l'Église, et qui se rappelle avec tant d'affection tout ce qui était sorti de la bouche du Sauveur qu'il aimait, compare ceux qui croient en Christ et se confient en lui à des pierres vivantes qui s'approchent du Seigneur et sont posées sur lui, la maîtresse pierre de l'angle vivante, élue et précieuse aux yeux de Dieu. 1 Pierre 2, verset 4 à 6.
Duquel vous approchant comme d'une pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse auprès de Dieu, vous-mêmes aussi, comme des pierres vivantes, êtes édifiés une maison spirituelle, une sainte sacrificature, pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Parce qu'on trouve dans l'Écriture, « Voici, je pose en Sion une maîtresse pierre de coin, élue, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. »
Ils sont unis à lui par le lien indestructible de la vie de Dieu, et c'est ainsi que s'élève la maison de Dieu. La parole de Dieu présente aussi l'Église comme l'épouse de Christ. Éphésiens 5, versets 24 à 27.
Mais comme l'assemblée est soumise au Christ, ainsi que les femmes le soient aussi à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos propres femmes comme aussi le Christ a aimé l'assemblée, et s'est livré lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifiât, en la purifiant par le lavage d'eau par la parole, afin que lui se présentât l'assemblée à lui-même, glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais afin qu'elle fût sainte et irréprochable.
Dieu avait donné Ève pour aide au premier homme, Adam. Et de même au second homme, Christ, il donne l'Église. Nous lisons dans la Genèse la belle histoire du serviteur d'Abraham qui alla au loin chercher une épouse pour Isaac. Genèse chapitre 24. De la même manière, le Saint-Esprit vient chercher maintenant sur la terre une épouse pour Christ, et c'est l'Église. Il la forme de tous ceux qui, en croyant au Seigneur Jésus, abandonnent le monde comme Rebecca sa patrie, pour s'attacher à Christ seul. C'est pour nous montrer combien elle est étroitement unie au Seigneur et combien elle lui est chère, que l'Église est représentée comme son épouse et est appelée la femme de l'agneau. Il la prépare maintenant pour lui-même, nous est-il dit. Il la sanctifie et la purifie pour se la présenter un jour glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, sainte et irrépréhensible. Et quand sera-ce? Dans le ciel, quand, avec les transports d'une joie et d'une allégresse sans égale, les noces de l'agneau seront célébrées. Apocalypse 19, versets 7 à 9.
Réjouissons-nous et tressaillons de joie et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et sa femme s'est préparée, et il lui a été donné d'être vêtue de fin lin, éclatante et pure, car le fin lin ce sont les justices des saints. Et il me dit, écris, bienheureux ceux qui sont conviés au banquet des noces de l'agneau. Et il me dit, ce sont ici les véritables paroles de Dieu.
Quel ravissement, heureux ceux qui seront là et y prendront part. C'est en pensant à ce bonheur que l'Esprit et l'Épouse disent au Seigneur Jésus, viens. Et lui qui aime l'Église répond avec tendresse, je viens bientôt. Enfin, l'Église est aussi représentée comme une cité céleste et glorieuse. Apocalypse 21, versets 9 à 17.
Et l'un des sept anges qui avait eu les sept coupes pleines des sept dernières plaies vint et me parla, disant, « Viens ici, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il m'emporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la sainte cité, Jérusalem, descendant du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son luminaire était semblable à une pierre très précieuse, comme à une pierre de jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et aux portes 12 anges, et des noms écrits sur elles, qui sont ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'orient, 3 portes, et au nord, 3 portes, et au midi, 3 portes, et à l'occident, 3 portes. Et la muraille de la cité avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Et celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or pour mesurer la cité, et ses portes et sa muraille. Et la cité est bâtie en carré, et sa longueur est aussi grande que sa largeur. Et il mesura la cité avec le roseau jusqu'à 12 000 stades. Sa longueur et sa largeur et sa hauteur étaient égales, et il mesura sa muraille 144 coudées, mesure d'homme, c'est-à-dire d'ange.
Mais elle ne sera telle que dans l'avenir, quand Christ aura établi son royaume. Maintenant, c'est pour l'Église le temps de l'humiliation et de la souffrance avec Christ et pour Christ. Mais alors la gloire de Dieu l'illuminera et fera resplendir sa beauté. Le trône de Dieu et de l'agneau sera en elle. Elle sera le siège de l'autorité de celui qui, autrefois couronné d'épines et crucifié, régnera alors sur l'univers, et elle régnera avec lui. Ne vaut-il pas la peine de souffrir pour Christ en ayant l'espoir de régner avec lui? Voilà comment la parole de Dieu nous présente l'Église. Elle nous dit aussi qu'elle durera éternellement. Quand les nouveaux cieux et la nouvelle terre où la justice habite auront été établis, l'Église sur cette nouvelle terre sera l'habitation de Dieu au milieu des hommes sauvés. Apocalypse 21, versets 1 à 4.
Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés et la mer n'est plus. Et je vis la sainte cité nouvelle Jérusalem, descendant du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse ornée pour son mari, et j'ouïs une grande voix venant du ciel, disant, « Voici, l'habitation de Dieu est avec les hommes, et il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux leur Dieu, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni peine, car les premières choses sont passées. »
Quelle glorieuse perspective pour les croyants d'être là dans cette éternité bienheureuse. Mais cette Église aimée de Dieu est destinée à la gloire céleste et sur la terre. Elle doit y être le témoin de Christ pendant que celui-ci est en haut, y faire briller la lumière céleste de la grâce et de la vérité, y marcher comme son Seigneur y a marché. Nous verrons ensemble son histoire comme la retrace la parole de Dieu, soit dans ce que nous en raconte le livre des Actes, soit dans ce que nous en disent les épîtres de l'Apocalypse. Ensuite, nous poursuivrons cette histoire telle que nous la trouvons dans les faits qui nous sont rapportés dans les documents humains, et nous apprendrons ainsi si elle a répondu à sa glorieuse vocation.